quel plaisir de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes en équipe. Bonsoir. Bonsoir le chat, bonsoir si vous nous regardez sur Twitch, bonsoir à vous si vous nous regardez en replay sur YouTube, bonsoir aussi si vous nous écoutez en podcast. Très heureux de vous retrouver pour cette émission Backseat, une émission très particulière puisque c'est la dernière de la saison, de cette deuxième saison de Backseat, une émission spéciale du coup. Après ce Before, on a décidé qu'on allait discuter avec les chroniqueurs et les chroniqueuses que je vais présenter dans un instant de l'actualité de l'année carrément, pour discuter, voilà, de faire un petit peu un bilan politique de cette année avant les vacances d'été. Voilà, avant ça, je tiens à vous rappeler, chers amis, que nous sommes dans la dernière ligne droite du financement participatif de l'émission. Il ne reste que 9000 euros à récolter en financement participatif pour qu'on arrive enfin à rentrer dans notre budget, pour boucler le budget, pour pas être en déficit. Plus que 9000 euros, vous pouvez y arriver, on peut le faire au cours de cette émission. Je vous rappelle qu'à la fin de cette émission, pendant le quiz à la con, il y aura un tirage au sort qui sera réalisé parmi les donateurs de Backseat, qui vous permettra de remporter un t-shirt Backseat dédicacé par l'ensemble des chroniqueurs et des chroniqueuses. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me les apporter en plateau, s'il vous plaît, les t-shirts? Il y a quelqu'un du côté de la
région? Je peux y aller.
Non, mais il y a Laurent arrive, qui est en train de courir. Il va nous apporter les t-shirts. Non, parce que du coup, vous allez signer pendant l'émission. Hein, parce qu'on s'est dit que voilà, vous alliez bosser au moins pour
une
fois.
On a 10 t-shirts à signer, du coup.
10 t-shirts à signer. Ouais, si vous avez un marqueur ou un truc qui y ressemble.
Non, mais il faut justifier les salaires, t'as raison.
Ouais, non, là, c'est un problème. Ça va, toi, la grève? On va en reparler. Donc, du coup, voilà, ces t-shirts-là, ils vont être dédicacés par tous les chroniqueurs et vous allez le recevoir chez vous. Ce sera un tirage au sort qui sera effectué parmi les donateurs et les donatrices de Kiss Kiss Bang Bang. Donc, allez-y, faites un don. Si ce n'est pas encore le cas, faites un don. Et j'en profite pour vous inciter à faire un don régulier. C'est ce qu'il y a de mieux pour financer Backseat parce que ça nous permet d'avoir de la prévisibilité sur le budget et, par exemple, de préparer une saison 3 dans de bonnes conditions, par exemple. Donc, voilà, je suis autour de la table avec que des belles personnes. On est avec Malek. Salut Malek.
Salut Jean.
Comment
salut
tu vas?
Salut tout le monde.
Malek,
ça va très bien.
T'as galéré à arriver? Problème
J'ai
de transport
galéré.
En commun?
Ouais.
Tu peux expliquer pourquoi pour les non-parisiens qui nous écoutent?
Pour le banlieusard que je suis, en ce moment les transports c'est compliqué avec les révoltes urbaines là qu'on voit depuis deux jours. Et j'ai clairement mis 2h30 pour venir. Mais tout va bien.
Ouais.
J'ai un truc à proposer au chat.
Si
on arrive à notre petite boucle du financement participatif, je me propose de faire une petite contrepartie, hein, c'est cadeau. Je me propose d'écrire une petite lettre d'amour à Aurore Berger.
Ah oui!
Ça me coûte, mais je suis prêt à le faire pour le chat.
Oh wow.
Donc voilà, je compte sur vous.
Ok.
C'est engagé, hein.
Écoute, c'est engagé de ta part. Mais donc, si on arrive à 9000 euros à boucler notre financement participatif de la saison à la fin de cet épisode, à la fin de cette émission, Malek écrira une lettre d'amour à Aurore Berger. Malek,
ce délégué. Sera posté sur Twitter et sur Instagram.
Ouais. Tu es conseiller en communication politique et chroniqueur d'actualité, notamment sur Backseat.
Exact.
Très heureux de t'accueillir pour cette dernière émission de l'année. On est aussi avec Sacha. Salut Sacha.
Salut Jean.
Sacha, tu es journaliste au JDD.
Absolument.
Comment ça va?
C'est la grève.
C'est la grève, ouais. Je précise qu'il y avait une soirée, un meeting de soutien aux journalistes en grève du JDD qui était organisé il y a deux jours.
Que tu as accepté d'animer.
Sur ta proposition.
Sur ta grande bonté, ouais.
Oui, non, j'étais très content de l'animer. C'était, sache-le, Sacha, très émouvant de te voir avec tous tes collègues de la rédaction du JDD sur scène dans ce moment de solidarité, parce qu'il y avait beaucoup de monde, hein, plus de 1000 personnes qui étaient là. Vous étiez très nombreux aussi sur Twitch à suivre ce meeting de soutien aux journalistes du JDD et pour l'indépendance des médias. Donc, ouais, en ce moment, j'imagine que ça ne doit pas être facile.
Non, je découvre la grève du coup et je découvre à quel point la grève est épuisante.
Ouais,
c'est fatigant, je le savais pas. Je pense qu'on bosse plus maintenant que... Rigole pas.
Ça te fait marrer, Usul.
Toute l'année, c'est la grève, c'est les branleurs.
Non, c'est pas vrai. Découvre
la grève.
Jamais. Non, j'ai jamais dit ça. Je réfute complètement. Non, mais voilà, du coup, on découvre les AG, on découvre les décisions qu'on prend tous ensemble, les commissions, les sous-commissions, les 55 conversations WhatsApp, etc. Non, c'est en fait,
cool.
ce qui est bien, c'est de voir qu'on a tous le même objectif. Et en fait, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais juste qu'on aime ou pas le JDD, je pense qu'on est dans un combat qui est un peu plus haut que le nôtre et un peu plus avec, prenons un peu plus de recul sur nos emplois. Enfin, je pense qu'on fait pas grève pour sauver nos emplois. Je pense qu'on fait grève pour l'indépendance de la presse.
Pour la France même.
Et
pour la démocratie, pour la démocratie, la liberté de la presse. Oui, oui, non, mais tu.
Non, voilà. Donc, du coup, donner à Baxit, mais si vous pouviez donner aussi à la caisse de grève, c'est super cool. Parce que, voilà, il faut que je nourrisse Scott tous les mois.
Donc voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, le journal du dimanche est actuel. En tout cas, la rédaction du journal du dimanche est actuellement en grève suite à l'annonce de la nomination par Arnaud Lagardère, l'actionnaire principal, de Geoffroy Lejeune à la tête du journal. Geoffroy Lejeune, une personnalité médiatique d'extrême droite qui jusque-là dirigeait l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles.
Condamné pour incitation à la haine, etc. Qui a fait ce fameux dossier avec des dessins de Daniel Obono en esclave, etc. Bon. Voilà, on est sur.
Juste, si tu veux pas te prendre un procès pour diffamation, c'est la rédaction, enfin, c'est Valeurs Actuelles qui a été condamnée sous la direction de Geoffroy Lejeune, mais Geoffroy Lejeune a été relaxé.
Très bien.
Voilà. Non, bah... c'est pour t'éviter un procès.
Oh, bah oui, oui, non, si tu peux éviter les procès, c'est pas plus mal, ouais, ouais. Tu fais bien, tu fais bien.
Donc voilà. On est aussi avec toi, Jules, du coup.
Oui, bonjour.
Comment ça va?
Ça va, moi j'ai signé la pétition pour le JDD aussi, parce que bon, un journal de plus dans les mains de l'extrême droite, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? C'était pas, voilà, le JDD, pour les gens qui connaissent pas, c'était un journal, bon, qui est plutôt identifié comme très proche du pouvoir. Quand le pouvoir était aux sarkozystes, il était très proche des sarkozystes. Quand le pouvoir était à Macron, il était très proche de la Macronie.
Hollande,
je parlais de Sarko, moi, vraiment.
Ah, pardon, non. Enfin, du coup, il n'a pas été proche d'Hollande.
Bah, un peu moins, mais c'est plus de droite, quoi. Mais le truc, c'est que...
Non, mais je me dis, tu t'imaginais, il y a une semaine, que tu allais signer une pétition pour soutenir le JDD un jour dans ta vie?
Non, mais la pétition, ça va, tu vois.
Mais
j'ai lu le texte, j'ai fait oui, c'est vrai, ouais, non, c'est chaud quand même. Voilà, ouais. Et puis, j'étais pas le seul, il y avait la SDJ de Mediapart, enfin, il y a plein de personnalités
de gauche. Il y avait Claire, il y avait Antoine, il y a eu Léa, il y a eu
Lionel Jospin.
Il y a eu Lionel Jospin. Il y a eu Bernard Cazeneuve et on a eu des nouvelles de Jean-Marc Ayrault aussi. Donc Jean-Marc Ayrault est toujours vivant.
Ah, putain, c'est bien. Il signe des pétitions. Est-ce qu'il y avait Juliette Binoche qui a signé la pétition?
Que normalement, oui, hein.
Elle signe toutes les pétitions, Juliette Binoche.
Il me semble que oui.
Je crois que c'est que dans l'Obs qu'elle signe. Bon, à vérifier. Bon,
ouais.
En tout cas, oui, plus de 400 personnes qui ont signé cette pétition. Donc, Usul, toi, la dernière, d'ouvrir les guillemets, ta chronique pour Mediapart, c'est la semaine prochaine qu'elle
ça
sort.
Ça sort lundi, absolument.
Ce sera la dernière de cette. Voilà, on en avait parlé déjà la semaine dernière sur le plateau de Baxit.
On va faire plutôt que de faire un bilan, on a déjà fait un bilan l'année dernière. Des 5 ans là, donc comment Macron c'est chaud et tout là, tu vois. Bon, je pense que tout le monde est au courant. Donc on fait plutôt de la prospective en utilisant l'IA et des NFT. Je lui ai dit mets-moi des NFT dedans là. Il me dit mais tu sais bien ce que c'est que les NFT? Je m'en branle, tu mets des NFT du Web3 là, c'est ça le
futur.
Oui.
C'est le turfu, c'est l'avenir.
Donc voilà, un épisode plein de NFT, de Bitcoin.
Et ben on a hâte de le voir. Donc ça sortira lundi, ce sera le dernier épisode d'OLG sur la chaîne YouTube de Mediapart. Oui. On est aussi avec toi, Latifa. Latifa, oui. Donc on te retrouve. Latifa, t'étais avec moi pendant ce Before.
Tout à fait.
Toujours directrice de l'association Le Mouvement et ancienne du Bondi Blog.
Tout à fait.
Ça va toi?
Ouais, ça va super.
Ton actu, donc tu nous as dit tout à l'heure, tu étais à la marche blanche à Nanterre.
Oui, j'en veux.
À la mémoire de Naël.
J'en venais. Ouais, effectivement. Donc j'ai passé l'après-midi là-bas.
Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Il y avait du monde?
Ouais, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et puis surtout que ça fait bizarre de voir ces lieux-là investis par des manifestations et par ces drames-là, même quand on sait ce qui se passe. Parce que j'ai... habité longtemps en fait dans le quartier Pablo Picasso, etc. Donc c'est un endroit que je connais bien. Et ouais, c'est un peu la première fois que ça arrive aussi, ça, de se dire ah bah c'est ouais tous ces lieux qu'on connaît avec autant de personnes forcément tristes qui demandent juste justice. Et c'est quelque chose d'extrêmement violent. Donc effectivement, il y avait Monia, la mère de Naël, et c'est tellement en fait dur de se dire qu'une personne qui a perdu son fils il y a moins de 3 jours et qui est obligée de manifester en fait. Obligé dans cette période de deuil en fait pour s'assurer que la justice soit faite, parce que voilà le contexte étant ce qu'il est concernant les violences policières, mais la violence que ça représente de ne même pas pouvoir faire son deuil dans des conditions normales en fait, et de pouvoir se dire je fais confiance à la justice de mon pays et qu'on soit obligé de descendre dans la rue pour s'assurer autant en soutien pour la famille mais aussi pour s'assurer que et montrer à l'État que en fait on est là, il y a des gens qui réclament que la justice passe comme elle passe pour n'importe qui.
Et je précise pour les non-parisiens que donc Nanterre, lieu où a eu lieu le drame donc, de la mort de Naël, le meurtre de Naël par un policier, c'est une ville d'un quartier, enfin d'un coin populaire de l'ouest de Paris, derrière le quartier de la Défense.
Ouais.
Et donc c'est là où tu as grandi, ça je savais pas.
Non, j'ai pas grandi là-bas, non. Mais j'y habitais.
Mais tu habitais le quartier Pablo Picasso.
Très, ouais.
Ok, d'accord. D'accord. Bon, les amis, c'est une émission spéciale de Backseat ce soir. On a décidé qu'on peut parler de ce qu'on veut, hein, comme d'habitude sur Backseat, mais qu'on a décidé d'aller prendre un petit peu de recul, vu que c'est la dernière de la saison. On s'est dit qu'on n'allait pas tant parler de l'actualité de la semaine que de l'actualité de l'année. Donc c'est parti pour l'actualité de l'année. Alors, si on prend un petit peu de recul sur cette année 2023, depuis janvier dernier, depuis qu'a repris la saison 2 de Backseat, il s'en est passé des choses. On en a vécu des moments assez impressionnants. Les trois premiers mois ont été quasi intégralement consacrés à la réforme des retraites et aux mobilisations du mouvement social opposé à cette réforme, avec moult péripéties d'union et de désunion syndicale et politique, de cheminement chelou d'un point de vue de la procédure parlementaire. Ça nous aura quand même pas mal occupé. Et puis ensuite, il y a eu les 100 jours d'Emmanuel Macron qui a voulu tourner la page. Pendant tout ce temps-là, en toile de fond, il y avait la guerre en Ukraine. Il s'est passé quand même énormément de choses. On vous a demandé, pour préparer cette émission, chacune et chacun, de nous dire quel a été l'événement ou le fait d'actualité qui vous a le plus marqué cette année et dont vous vouliez parler à l'occasion de cette dernière émission de la saison. Qui est-ce qui veut commencer ? Usul,
si tu veux.
Tu voulais parler des méga-bassines, c'est ça ?
Je voulais parler de l'eau en général. Je me suis dit, je prends un contre-pied parce qu'évidemment, j'ai parlé des retraites toute l'année. J'ai parlé de... Enfin, voilà. Mais parler de l'eau, pourquoi ? Parce que, alors, il y a Sainte-Soline, en effet, mais Macron avait parlé de fin de l'abondance. Mais oui. Qu'est-ce que ça veut dire la fin de l'abondance ? Ça donne les méga-bassines. Donc les méga-bassines, c'est une réponse qui a été soufflée par les agriculteurs qui ont besoin de privatiser l'eau pour leur récolte. D'ailleurs, la FNSEA, qui est le syndicat des exploitants agricoles, n'est pas étrangère à la dissolution des soulèvements de la terre. On en a parlé la semaine dernière. Mais en gros, on rentre dans un moment de pénurie qui va, à mon avis, durablement changer la société. Là, on est au début de l'été. Oui. Mais cet été, on va avoir encore à nouveau des bleds. Comme l'année dernière, il y en avait déjà quelques dizaines.
Je ne sais pas si vous oubliez l'année dernière, on discutait des golfs qui étaient arrosés pendant que les maraîchers ils avaient des flottes et tout. Ça nous avait amusé aussi pendant un bout de l'été.
Amusé.
Oui, mais je dis on, c'est moi, je faisais partie de ceux qui faisaient des blagounettes.
Oui.
Le simulateur, machin, on rigolait, tu vois, en stream, mais. Mais c'est pas drôle.
c'est pas drôle, mais en tout cas, ça va agir en effet comme un révélateur sur dans quelle société on est, qu'est-ce qui est prioritaire. Parce que quand on fait croire que de toute façon, le fameux gâteau qui est toujours plus grand, c'est pas grave si les riches s'enrichissent et peuvent toujours faire plein de trucs, puisque de toute façon, regardez, on a réglé le chômage, ils vont nous dire Macron. Là, on rentre dans un truc où il n'y aura pas plus d'eau chaque année, il va y en avoir de moins en moins. Donc on va regarder les usages d'un petit peu plus près. Et en fait, ce qu'on va regarder, c'est les rapports de force de qui a le droit de faire quoi, qui a le droit comment. Et en effet, l'année dernière, il y a eu des trucs non seulement des golfs qui continuaient d'arroser, mais parce qu'ils avaient, avec des paysans qui, eux, commençaient à se priver, et puis des bleds entiers donc, dont l'eau courante était coupée. Et les golfs avaient des dérogations. Voilà. Donc, est-ce qu'on est dans une société de classe ? Moi, à mon sens, oui, avec des privilèges de classe, etc. Ça va se voir particulièrement quand il y a des ressources fondamentales qui vont commencer à manquer.
Notamment l'eau.
Et vous connaissez l'adage, hein, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage.
Elle est connue, celle-là, oui.
Elle est connue, celle-là. Yannick Jadot avait répondu, c'est bien le jardinage. Donc, c'était intéressant. D'ailleurs, je vais avoir...
Attends, c'était pas sur le plateau de Backseat qu'il a dit ça ?
Non, c'était chez Hugo Décrypte, mais bon, tu t'es confondu avec Hugo Décrypte.
Bien joué Hugo.
C'est des trucs qui peuvent arriver.
Oui, même à des gens bien.
Voilà. D'ailleurs, cet été, aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts, je vais avoir une discussion avec la tête de liste aux européennes. Normalement, c'est en discussion. On va
parler. Qu'il n'y a pas de liste unique ?
Eh bien, t'as bien vu que c'était mal barré.
Oui, j'ai cru.
Et on va parler écologie et lutte de classe. Et moi, c'est le moment où ça converge. Moi, ça m'obsède un peu, l'idée de faire converger un petit peu les luttes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, hier, j'étais à un rassemblement des soulèvements de la Terre et je suis allé leur parler de Naël et des violences policières et de la dissolution du CCIF. En disant, et des perquisitions qu'il y a eu à la suite des attentats de 2015. Vous voyez, voyez, ça vous intéressait peut-être pas à l'époque, mais vous voyez qu'aujourd'hui, les questions de liberté publique, là, qui à la base vous concernaient pas, aujourd'hui ça vous concerne maintenant. Donc, arriver à faire les ponts, arriver à. De toute façon, le gouvernement n'a qu'une trouille. Il y a une note, il y a un article de Mediapart qui vient de sortir sur une note des RG, enfin des renseignements territoriaux, qui parle de ces agitateurs sur Internet, là, donc, sont cités. Oui, non, c'est pire que toi.
Ouais, non, je me doute.
C'est Kylian Mbappé.
Ah, des mecs vénères, ouais.
La note s'inquiète de gens qui sont populaires dans les quartiers sensibles, etc. Et Omar Sy, tiens, on voit qu'il y a un prisme un peu, voilà. Voilà, comme quoi ils ont peur qu'il y ait une convergence des luttes. Et là, ils citent des influenceurs islamistes, des trucs comme ça. C'est-à-dire genre Siham Asbagh, qui juste est une journaliste qui travaille sur les violences policières depuis des années, mais qui là, du coup, est repeinte en influenceuse islamiste.
D'accord.
Donc, la convergence des luttes, ça se construit. Ça se construit en écoutant les luttes des uns et les luttes des autres.
Lisant les rapports des RG.
En lisant les rapports des RG. Et moi, c'est vrai que j'ai envie de parler... j'avais envie de parler de l'eau.
Non, mais c'est intéressant.
On fait des liens aussi, et moi c'est pas ma formation première que de venir parler d'écologie, mais je pense que ça va être crucial dans les années à venir et que l'été là il va être horrible. Qu'est-ce qu'on en fait de ça politiquement? Comment on politise ces questions? Comment on fait des liens? Voilà.
Merci Usul pour.
Alors moi j'avais une question. On signe devant ou derrière? Parce que
devant. Le chat, vu que c'est vous qui allez le gagner, vous voulez que les autographes soient devant ou derrière?
Parce que derrière, il n'y a rien, c'est juste blanc. Non, si l'idée, c'est de ne pas le porter, parce que qui a envie de porter un t-shirt avec des signatures dégueulasses partout? Personne. C'est de l'encadrer, va le mettre quelque part.
Derrière.
Mais derrière, il n'y a pas de logo, ça veut rien.
Alors pour les maillots de foot, devant. Mais c'est derrière, normalement.
Plus portable, non? C'est pas plus portable dans le dos?
Vous savez quoi? Est-ce que les modos, vous pouvez faire un derrière, sondage dans le. Faites un sondage et
moi, je fais rien.
Faites un sondage.
Non, mais nous, on obéit à la populace.
Moi, je touche pas tant que.
Vous nous disiez et on fait. Et je serai aussi aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts. Moi, je ne sais plus de quoi j'ai parlé. Ils m'ont mis foutu sur.
Ils t'ont mis sur la soirée Nupes.
Yes.
Moi. Sur la plénière, avec des gens de la Nupes. Bah écoute, j'ai mes sources.
Pourquoi ils m'ont mis là-dessus?
J'en sais rien, moi.
Je parlerai des jeunes et d'Internet, parce que de toute façon, je parle que de ça, donc voilà. Ok, d'accord.
L'histoire, il y a karaoké. Je sais pas si.
Ah.
Je suis chaud de ouf.
Ça nous intéresse.
Vous nous en tirez des vidéos?
Si t'es sage.
On fera un best-of à la rentrée.
Si t'es sage. Bah, viens couvrir pour le. Ah, bah non. qu'est-ce qui veut continuer? Qui parmi vous avait aussi un sujet dont vous vouliez parler, en particulier sur cette année? Malek, toi? Qu'est-ce qui t'a marqué cette année?
Moi, alors il y a un truc qui me marque, c'est qu'on est à l'année 2 du deuxième mandat Macron.
Ouais.
Et il y a une odeur de fin de quinquennat qui est incroyable.
Oui, c'est vrai.
On a l'impression que ça va imploser à tout moment. Et il y a deux choses qui me viennent en tête, qui sont pour moi les deux chantiers qui font que c'est sur le point d'imploser. On a vu donc avec l'examen de la réforme des retraites que cette fameuse phrase de « la démocratie est malade », en fait, pour moi, elle est dépassée. Elle est déjà, la démocratie a agonisé, elle est déjà peut-être même morte. Et je pense que plus personne ne se reconnaît dans ce modèle-là, et c'est palpable. Et je pense qu'il va falloir y remédier. Je pense que plus personne ne peut entendre que face à un exercice de démocratie, on peut sortir plein de petites armes de la besace. Si ce n'est pas 49.3, c'est 47.1. Si ce n'est pas 47.1, c'est article 40. Bref, on est fatigué. Et c'est peut-être un des chantiers d'Emmanuel Macron pour la fin de quinquennat. Peut-être qu'il en sortirait par le haut en proposant, parce que j'appelle à ça, mais plein de gens appellent à ça aussi, à une convention citoyenne sur la démocratie, histoire qu'on puisse avancer sur des propositions. Et puis pourquoi pas qu'on puisse soumettre ça aussi à référendum, histoire que le peuple décide de quelles règles pour l'avenir de la démocratie. Et dans un deuxième temps, ce qui fait aussi que pour moi le pays va imploser. Et là aussi, malheureusement, l'actualité récente de cette semaine nous le montre, mais on l'a vu aussi avec la réforme des retraites. Mais comme je dis très souvent, c'est un sujet qui dure. C'est les violences policières. Des violences policières systémiques. On n'a pas découvert ça là. Il y a eu 2005 avant. Il y a eu plein de choses avant. Mais en 2005, tout le monde disait « Oui, mais c'est propre qu'au quartier. C'est les gars des quartiers qui cherchent. » Et puis ensuite, il y a eu « Nuit debout ». Et puis ensuite, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu l'examen de la réforme des retraites en début d'année. Et puis là, on a eu l'actualité tragique avec le petit Naël à Nanterre. J'ai l'impression que les limites sont repoussées. Et je veux qu'on sorte en fait de ce schéma qui me saoule un peu, des ministres de l'Intérieur qui sont nommés et qui, après avoir rencontré tous les directeurs généraux de la police, de la gendarmerie, rencontre les syndicats et décide de se soumettre aux syndicats policiers parce que c'est la condition pour garder leur place et pour ne pas sauter. Et ça, c'est vraiment un truc qui me gonfle. Donc, et ce n'est pas anti-flic de dire qu'en fait, je voudrais qu'on fasse un grand chantier et qu'on retape la maison police du sol au plafond et qu'on décide de construire une police saine un petit peu à l'image
c'est du... C'est Jean-Luc qui a dit ça, fort taper du sol au plafond.
Ah ouais,
là, t'as cité du Jean-Luc.
Oula, notez ça.
Eh, tu rends à César ce qu'il y a à César. Hein.
Et voilà, parce qu'il y a un vrai problème. Pour moi, voilà, il y a une gangrène de l'extrême droite. Il y a un vrai problème de discrimination. Il est prouvé, c'est pas moi qui le dis, c'est la défenseure des droits qui le dit. Quand on est perçu comme noir ou nord-africain, on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler par la police. Et on voit dans quelles conditions on peut se faire contrôler. Et au-delà de ça, l'abus de la force, l'abus de l'usage de la force, on l'a vu pendant l'examen de la réforme des retraites avec des coups qui étaient donnés à de simples manifestants. Et là, on l'a vu avec un gamin qui roulait peut-être sans permis, mais qui méritait absolument pas de mourir. Voilà.
Merci Malek, effectivement, je te rejoins complètement sur ces deux points, sur la crise de la démocratie et sur le côté fin de quinquennat. Il y a quelqu'un dans le chat, quand tu le disais, qui disait « est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une ambiance de fin de République ?»
Aussi.
C'est intéressant parce que tu vois, parce qu'on pourrait personnifier facilement autour de Macron, on l'a déjà dit mille fois sur ce plateau, Macron c'est Giscard,
fin de
septennat, personne n'en peut plus, c'est vraiment vieux et ronflant. Mais le côté fin de République est aussi intéressant et il y a un petit côté aussi clair-obscur qui n'est pas très très rassurant, c'est-à-dire que la fin d'une république, si c'est pour la naissance d'une nouvelle, ça peut être excitant, ça peut être intéressant, mais ça peut aussi être très flippant, parce que on est nombreux, je pense, à anticiper avec trouille un avenir pas forcément glorieux politiquement, avec potentiellement l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République en 2027, comme ça je dis les termes. Et donc c'est des enjeux que je trouve très intéressants, et tu l'as dit sur la police, je suis d'accord avec toi, la refondation d'un service public de la police est un enjeu qui va prendre énormément de temps, qui va demander de la méthode, qui va demander du courage politique, qui va demander un travail de fond, parce qu'on ne change pas en claquant des doigts une maison police dont tu parles, qui en fait depuis 20 ans, et ça a été long, ça s'est mis en place doucement par plein de petits effets, c'est pas que les méchants syndicats de police qui ont fait ça, c'est pas que les méchants ministres de l'Intérieur, c'est pas que la méchante opinion publique et les méchants médias, c'est un peu tout ça en même temps.
Ça traîne.
Et voilà, c'est ça. Donc ça va prendre du temps, et c'est pas en claquant des doigts. Et c'est pour ça que dans la dernière émission Backseat, sous forme de blague, je disais « Ouais, mais ce sera quoi un maintien de l'ordre de gauche le jour où la gauche arrivera au pouvoir ?» C'est une forme de pantalonnade de ma part de dire ça. Mais en fait, ce n'est pas faux. C'est que c'est des questions auxquelles il faut réfléchir. C'est-à-dire
qu'arriver
au pouvoir, on ne change pas en claquant des doigts des services publics.
Mais on a des exemples.
Mais non, mais j'allais dire que surtout la loi dont on parle dans le cas du petit Naël, c'est vraiment une loi qui a assoupli les conditions de recours aux armes à feu dans le cas de refus d'obtempérer, automobile, etc. C'est une loi qui a été votée
Hollande,
c'est la loi Cazeneuve. Donc, c'est une loi votée par une majorité socialiste. Ça, quand on dit à quoi ça ressemblait et qu'on se rend compte que cette loi-là a été votée sous un gouvernement de gauche, bah, c'est pas un bon présage. Donc, ouais, c'est vrai que ça.
Au boulot.
C'est fou, ouais, au boulot. Hein. Vous faites passer. Vous
non, mais regardez. La gauche a déjà fait.
La gauche.
Non.
On file des t-shirts à signer.
Non, mais je reviens sur ce que tu dis pour dire, tiens, tu vois, c'est un très bon exemple. L'assouplissement des règles d'usage d'armes à feu dans le cadre de légitime défense des policiers, c'est typiquement le bon exemple d'une politique publique qui ne porte pas les fruits qu'on en attendait, qu'il s'agirait de changer. Ça ne me paraît pas impossible à faire, ça ne me paraît pas délirant pour un député, même de la majorité, de le dire, que tiens, il faudrait peut-être réfléchir à ce que cette législation qui date de 2017 n'était peut-être pas une très bonne législation, peut-être qu'on pourrait la changer, peut-être... Enfin, voilà, j'ai même pas l'impression que ce soit radical de dire ça. Enfin, juste, il y a une loi qui n'est pas bonne, on la change, ciao bye, en fait.
On a un peu de mal avec ça, je m'en rends compte. Mais c'est vraiment quand il y a un truc qui ne fonctionne pas, mais bordel, tout à l'heure, tu as listé plein de petites conditions qu'il faut pour qu'on puisse changer de modèle. Mais je crois que la condition première, c'est le courage politique. Et purée, qu'est-ce qu'on en manque sur le sujet.
Quand tu dis qu'on a du mal avec ça, il y a d'autres services publics sur lesquels j'en entends matin, midi et soir, qui, sur le moindre petit dysfonctionnement, vont te réclamer une réforme de grande ampleur du truc et tout. Bon, bah, pour une fois, tu vois, il y a un côté merde. Je sais pas, c'est un manque de courage. Je pense que c'est un manque de courage, oui. Mais c'est pour ça que je m'en suis pris sur Twitter cet après-midi aux députés de la majorité en disant « Mais là, c'est votre moment, les gars.
Enfin, » Ouais, clairement.
C'est le moment de lever la main en disant « Bon, bah, moi, je suis député, ça va être mon rôle, je vais le dire. Voilà, je pense qu'il va falloir un peu bouger sur ce sujet-là. »
Et le ministre ne peut pas être content quand tu parles de courage.
Oui, mais oui.
Il y a un rapport de force avec les syndicats de police. Bon, là, en l'occurrence, en 2017, avec Cazeneuve, on sortait de Magny-en-Ville. Et de cette séquence aussi de 2015, des attentats, etc. Je crois qu'à un moment, il y a eu un chèque en blanc qui a été fait en mode oui, ok, c'est chaud, on vous donne ça. Les syndicats étaient en position de demander et puis les autres, ils ont cédé. Et entre-temps, on s'est retrouvé avec la fameuse séquence avec, évidemment, Gilets jaunes, etc. Et on se retrouve avec Castaner qui dit bon, quand même, après l'affaire Chouvia, je crois, la clé d'étranglement, on arrête. Et là, les syndicats de police, justement, montent au créneau de malade, ils jettent leurs menottes par terre, ils font
des manifs sauvages.
Ils font des manifs non déclarés.
Non déclarés.
Il faut envoyer qui dans ce cas-là, hein? Faut envoyer qui? Et donc, du coup, le truc, c'est que, bon, Macron s'est mis dans la main des syndicats de police à partir du moment où la police a été, de toute façon, la seule réponse à tous les autres mouvements sociaux. Donc, il ne peut pas se passer de la police, il ne peut pas se payer le luxe d'une fronde policière. Il y a déjà eu des frondes policières. Il y en a qui ont été calmées aussi. C'est ça aussi la République. La République, c'est de calmer ses flics. Puis quand Pierre Joxe...
Alors,
on remonte un petit peu, mais quand Pierre Joxe impose une charte déontologique, c'était la première fois. Ouais. Première fois qu'on impose aux policiers d'avoir de la déontologie.
C'était sous Mitterrand.
Sous Mitterrand, on remonte dans les années 80. Là. Ouais. Mais il impose une charte de déontologie, quoi.
Et les flics sont pas contents.
Et qui a été supprimée depuis, bien sûr. Il y en a plus. Et les flics, évidemment, n'étaient pas contents. Mais bon, au bout d'un moment, y a plein de... Vous voyez, là, les retraites, on n'est pas contents. Et puis, ça passe quand même. Est-ce que les flics sont au service de la République ou est-ce qu'ils sont au service de leurs petites corporations et de leurs petits avantages?
Ouais, d'ailleurs, là, on dit que la loi Cazeneuve, elle a été obtenue justement par pression en fait, des policiers pour, entre guillemets, les récompenser parce que c'est compliqué, etc. Et en tout cas, je crois qu'il y a déjà la NUPES qui a demandé à ce qu'elle soit supprimée et qui se mobilise. Et tout à l'heure, à la marche, il y avait Olivier Faure, d'ailleurs. Qui était présent,
Au demeurant, je note que dans l'immédiate après...
Olivier Faure qui était présent aussi à la manif de flics devant l'Assemblée nationale où Alliance a gueulé le problème de la police, c'est la justice.
Et c'est comme Fabien Roussel, tout à l'heure était là, mais il s'est fait très vite.
Il a fait une photo, il est reparti.
Ouais.
Parce que ça gueulait, non, Roussel n'est pas un camarade.
Mm. Ah ouais mm, mm, mm. Mais donc, je note quand même sur cette affaire Naël que les premières prises de parole, que ce soit celles du gouvernement ou du président de la République, sont pour le coup plutôt à noter, je trouve. On en est à se féliciter de ça. Je trouve plutôt à mettre à leur crédit.
Oui.
J'ai trouvé qu'Emmanuel Macron avait condamné assez rapidement en des termes assez clairs. Alors, il nous en a fait des conneries, Macron, hein, en 6 ans là, et on l'a entendu des fois dire des conneries dès le début, etc. Là, c'était une condamnation claire, unanime. C'est inexcusable ce qui s'est passé. Ce n'est pas, il n'y a pas à réfléchir. Ensuite, évidemment, quand il y a eu des échauffourées, il est revenu dans son rôle classique de condamnation, appel au calme, etc. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est quand tu es au pouvoir, c'est un peu un principe élémentaire. Mais les premières prises de parole étaient celles-ci. Pareil pour Gérald Darmanin, qui lui aussi a condamné assez clairement l'acte, qui a saisi l'IGPN. Le policier a été placé en détention.
C'est juste le côté inexplicable que Macron a utilisé qui n'est pas le mieux. C'est
inexplicable, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est ça.
C'est malheureusement pas inexplicable.
Malheureusement, il y a des sources et on pourrait en parler si d'aventure.
Moi, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que, alors je suis d'accord avec toi, j'ai trouvé la. Mais c'est fou qu'on doive s'en étonner. C'est la parole de Gérald Darmanin plus mesurée, en tout cas, que son préfet de police, Laurent Nunez, qui la veille au soir sur BFM TV, et pourtant, il a été mis dans les cordes par BFM TV. Attention, il faut aller loin. Quand on lui a demandé les conditions de suspension des policiers, qu'est-ce qu'il fallait attendre? Est-ce qu'il fallait attendre une mise en examen? Laurent Nunez, non, il était dans quand même une petite protection de ses fonctionnaires de police en disant, alors c'est ses mots, que lui, pour le coup, la vidéo l'avait interpellé. Voilà, il l'a répété à plusieurs reprises. Il est interpellé par la mort d'un gamin de 17 ans, tué à bout portant par un flic. Ça l'interpelle, en tout cas.
Il y a un truc sur on parlait de République. C'est vrai qu'il y a un discours d'habitude sur vous envoyez un pavé à un flic, c'est à la République que vous attaquez. Et là, quand c'est un flic qui tire... non, c'est pas la République, en fait. C'est un individu isolé, etc. Donc, quand on parlait de inexplicable, il y a ce truc de dépolitiser au maximum la question, individualiser le truc. Non, il faut politiser
le mouton noir. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Je vois très bien.
On politise quand ça les arrange et on dépolitise quand ça les arrange pas, quoi.
C'est très interpellant. Je note sur France Inter, vous l'avez peut-être vu passer, la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Qui m'a soufflé par très sa hauteur de vue, par son calme olympien, par sa mesure, par... Je me suis dit, putain, mais elle aurait été ministre, ça m'aurait fait plaisir. Enfin, tu vois, il y a un truc...
elle a pris, je trouve, alors qu'elle est porte-parole du ministère, pour ceux qui ne connaissent pas, les porte-paroles de ministère, c'est des postes qui ne sont jamais invités dans les médias, parce que c'est le ministre qui porte la parole du ministère, c'est normal, c'est lui qui fixe la ligne et tout. Bon, là, elle était invitée sur France Inter, et je l'ai trouvée impeccable sur la réponse à la question. Mmh. Quand Léa Salamé lui a demandé, parce que c'est en train de faire polémique hein, un peu partout sur le casier judiciaire de Naël et tout, quand la question est posée à la porte-parole, est-ce qu'il avait un casier judiciaire ou pas, et qu'elle répond, c'est pas le sujet. Mmh. Là, on parle d'un gamin qui est mort, en fait. On s'en fout. Quand bien même, il aura un casier judiciaire. Et alors, tu dis, waouh, putain, la vache, c'est impressionnant, quoi, de mesure, de prise de distance, de waouh.
Mais c'est qu'on n'est pas habitué à
c'est
ça.
C'est ce que
fait.
J'allais dire. Mais c'est ça qui est triste, en fait. C'est qu'on n'est pas habitué à ce genre de discours.
C'est ça qui est assez impressionnant. Donc, c'est aussi à noter dans ces moments de clair-obscur. Il y a des prises de parole à noter. En tout cas, on continue. Qui d'autre parmi vous avait des sujets dont vous vouliez parler? Sacha, toi, tu voulais parler?
Oui,
mobilisation.
D'une séquence qui nous a quand même pas mal occupé tout au long de l'année, qui est la séquence des mobilisations contre la réforme des retraites. Moi, j'ai pu couvrir la première sur le terrain. Je me souviens, c'était le jour de la première de Baxit aussi. On recevait.
Regarde, on a retrouvé nos archives. On a retrouvé nos archives. C'est ces images qui ont été prises par notre reporter Jean Massier sur place. C'était le 30 janvier, c'était la première de Baxit.
Ouais, c'était la première de Baxit. On recevait Philippe Martinez dans la foulée. Et surtout, ça a été le début de plein de choses. Ça a été le début de l'intersyndicale. Ouais. Ça a été le début d'un mouvement qui a duré 13 ou 14 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été le renouveau, entre guillemets, des syndicats.
Mais oui.
qui nous avaient, entre guillemets, un peu déçus pendant la crise des Gilets jaunes, parce qu'ils n'avaient pas su un peu saisir le mouvement. Mmh. Et là, on s'est dit, punaise, enfin, les syndicats sont à la hauteur et surtout sont capables de s'unir.
Voire même sont les seuls à la hauteur.
Enfin, exactement.
Dire, on l'a dit sur ce plateau.
Oui, oui, bien sûr, qu'ils ont été bien plus à la hauteur que les députés, etc., etc. Donc, je pense que c'est un moment important. Et moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est la suite. Sophie Binet, quand elle était ici, elle nous a dit on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à mobiliser l'intersyndical. On va continuer à se mobiliser. J'ai pas l'impression que les contacts avec Marie-Lise Léon, qui a remplacé Laurent Berger pour l'instant, soient ultra poussé. J'ai l'impression qu'ils sont même un peu froids. Mais voilà, je trouve que ça a ouvert une séquence qu'il va falloir suivre de près dans les prochains mois et même jusqu'à la fin du quinquennat, parce que si les syndicats sont capables de se mobiliser à chaque fois pour le vote de la loi immigration ou pour les votes des budgets ou des choses comme ça jusqu'à la fin du quinquennat, ça va être une fin de quinquennat qui va être ultra mouvementée sur les mobilisations sociales. Et ça nous a aussi montré que les corps intermédiaires, le président de la République, on n'avait toujours pas grand-chose à faire, quoi.
Ouais.
Est-ce qu'ils vont être là au rendez-vous des luttes climat, au rendez-vous des... Parce qu'il n'y a plus jamais ça, c'est très bien. Est-ce qu'ils vont être là au rendez-vous des luttes là, contre les violences policières, le racisme dans la police? Est-ce que c'est débile ou pas de s'imaginer que, quand je parlais de convergence, s'agirait aussi de les retrouver là? Ça pourrait être intéressant, parce que je crois que Martinez, là-dessus, il a plutôt été réglo. Oui. Puis les syndicalistes ont une expérience aussi du maintien de l'ordre.
T'en as parlé, Marie-Lise Léon, que j'aimerais bien recevoir dans une hypothétique saison 3 de Baxit, faites des dons. parce que justement, ces questions-là, effectivement, sont intéressantes sur la suite. Et je suis d'accord avec toi, Sacha, effectivement, 2023 aura été l'année du retour en force des syndicats que l'on disait morts hein, depuis les Gilets jaunes. Enfin, morts, évidemment, expression de plateau, ce que je viens de faire. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. On avait l'impression que le dépassement macronien était aussi passé par là, et en réalité, non. J'ai dit retour en force, et en force en demi-teinte, puisque incapable de faire un échec à la réforme, quoi, malgré des manifs monstres.
En force, mais en échec. Et après, je pense qu'ils ont beaucoup gagné au niveau de l'image. Qui renvoyait aux yeux des Français. Et je pense qu'à défaut, ils ont montré... En fait, de l'organisation des manifestations, qui se sont toutes super bien passées, pour le coup, avec un service d'ordre qui était vraiment impeccable, à la manière d'aller parler dans les médias, et parfois même de taper sur certains députés, notamment au moment des débats à l'Assemblée nationale, je pense que les syndicats ont pris énormément de grandeur sur toute la séquence. Et vraiment, ils vont je pense, à mes yeux en tout cas, qu'ils en ressentent ultra grandi. Et que ça va redevenir, peut-être, une force qui va pouvoir peser encore plus dans le débat politique et social, et sociétal.
Absolument, à suivre de près. Latifa ?
Moi, c'était mon sujet, c'est
quelque chose que vous avez tous remarqué par rapport à l'inflation et évidemment pour les gens qui sont les plus en difficulté d'être tombés dans la pauvreté parce que nous au mouvement on a demandé à nos membres etc de témoigner sur quel était l'impact concret parce que c'est ça aussi on parle beaucoup de chiffres et de choses qu'on a qui sont difficilement palpables mais les conséquences concrètes en fait sur la vie des gens de cette inflation et de vraiment l'absence de politique publique réelle pour lutter contre ça et je pense qu'elle
parle. Oh, wow.
Je pense qu'elle, quand elle va au supermarché, si elle y va, parce que là, c'est pas Merkel.
Ah, elle est première.
Mais elle a la goutte, quoi. Elle a pas la goutte, pardon. Elle a pas la transpiration des gens qui se disent comment je vais faire pour payer, je dois pas dépasser tel montant. Et est-ce qu'on a eu des industries agroalimentaires, des grands groupes, Carrefour, etc., qui ont fait des profits records. Et j'ai été très choquée que le gouvernement n'avait même pas honte de dire on a essayé de leur demander de diminuer leurs marges. Alors là, on va voir, on attend pour voir. Et comme s'ils avaient envoyé un mail. S'il vous plaît, on est, c'est incroyable en fait d'arriver à ce stade. C'est d'imaginer le rapport de force entre eux pendant ce temps-là. Les gens, enfin nous, les témoignages qu'on a reçus, c'est une dame qui dit moi j'ai perdu 5 kilos parce que cet hiver j'ai dû choisir entre ma fille et moi. C'est des gens qui vous disent oui parce que en plus, comme si ça suffisait pas. On baisse le taux de remboursement des soins dentaires pour les gens. De 70 à 60%, l'assurance maladie décide de faire ça, comme ça, apparemment. Et voilà, nous, on a des gens qui disent « moi, je vais faire un crédit pour avoir des implants dentaires ». Est-ce que c'est, je sais pas, la société dans laquelle on a envie de vivre, ou ne serait-ce que le pays dans lequel on a envie de vivre, si on se limite à ça. Mais en vrai, c'est terrible que... Parce que les gens qui sont les plus pauvres, ils n'ont pas le temps d'aller manifester. Souvent, ils n'ont pas le temps de se mobiliser. Ils ont d'autres urgences. Et c'est très dur en fait de dire qu'il n'y a pas eu grand chose qui a été fait. On a limite presque plus l'impression qu'ils font la guerre aux pauvres que le contraire. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup choquée. Et je me suis dit donc ça veut dire que j'en attendais encore de ce gouvernement. C'est quand même quelque chose qu'à la fin, je me disais, ils ont vraiment rien fait. Alors qu'au début, je me suis dit, ouais, quand même, là, c'est vraiment galère pour beaucoup de gens. Et j'espère qu'ils vont s'en rendre compte. Mais alors, dans le meilleur des cas, ils ne s'en sont pas rendus compte. Et dans le pire, ils s'en sont rendus compte et ils s'en fichent.
En tout cas, oui, 2023, tu l'as dit, aura été aussi l'année de cette inflation. On en a parlé plein de fois sur ce plateau, sur les causes de l'inflation, sur effectivement les marges records que se sont reconstituées les groupes, mais aussi la crise.
Le CAC 40 va très bien. Très, très, très bien.
C'est ça qui est énorme.
C'est jamais porté aussi bien, profit record encore plus que l'année dernière. C'est-à-dire à un moment, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Le problème, c'est que ça va être à nous de les Allez, j'allais dire de les abattre. Les ratiboiser un petit peu, tu vois. Parce que de même, c'est pas au gouvernement qui, comme tu l'as très bien dit, est un gouvernement de guerre de classe depuis 6 ans, d'une guerre frontale et victorieuse de classe, vraiment.
Je parlais de phénomène de l'inflation dont on avait déjà eu l'occasion de parler entre la guerre en Ukraine, les tensions sur les prix de l'énergie partout en France. La question climatique aussi qui a joué. Et au bout du bout, du coup, la difficulté d'agir pour le gouvernement, même si le gouvernement se gargarise d'avoir réussi à agir mieux que nos voisins européens. C'est terrible en France, mais c'est pire ailleurs. Je n'ai toujours pas compris en quoi c'était un très bon élément de langage, ça, mais il continue à le dire à chaque fois. Bon, pourquoi pas.
Pourtant, Olivia Grégoire continue de l'utiliser. Hein. Elle ne veut pas le
dire. Ouais.
Olivia Grégoire, qui, je le dis, parce qu'il faut balancer aussi des petites insides, elle ne m'a pas salué en repartant de l'émission. Voilà.
Ouais.
Et je l'ai mal pris.
De quoi, Olivier Grégoire, quand t'étais là?
Mais non. On a plein de petites anecdotes comme ça, si vous voulez.
On va peut-être en parler.
Et pas sympa.
Dans la deuxième partie de l'émission, on en parlera peut-être, si vous êtes sage.
Ah bah oui.
Et si vous donnez de l'argent, je précise qu'on est arrivé à 80% de la barre de financement, chers amis.
C'est énorme.
Merci beaucoup. On va y arriver.